C'est la saison des vendanges. Dans un certain nombre de lieux, elles sont déjà achevées. Mais les évangiles ne cessent de nous ramener à la vigne. Dimanche passé déjà, ce maître de la vigne qui sortait pour convoquer les ouvriers, et ce matin, ce père qui demande à ses deux fils d'aller travailler à la vigne. La même question, deux frères, deux réponses différentes. Peut-être sommes-nous l'un et l'autre de ces frères, selon les moments. Ce qui est remarquable, c'est que l'évangile de ce matin apporte une lumière sur le sens de la responsabilité de chacun de nous par rapport à cette convocation du Père « Va travailler aujourd'hui à la vigne ». D'abord, ce Père n'est pas un tyran. Quand le premier fils qui a commencé par refuser se présente finalement à la vigne, il n'est pas jeté dehors avec cette parole « c'est trop tard ». En revanche, quand le fils qui a dit oui ne se présente pas au travail de la vigne, son père ne vient pas l'y mettre de force. Chacun des fils se trouve devant sa conscience par rapport à cette question, cette demande posée par le père. Un père qui croit tellement dans la dignité de ses fils qu'il renonce à se substituer à eux. Un père, comme le dit tellement bien, ce qui est peut-être l'une des plus belles oraisons de toute l'année liturgique, qui donne la preuve suprême de sa puissance lorsqu'il patiente et prend pitié. Et en effet, nous avons ici un père infiniment patient. La dernière phrase, d'ailleurs, qui décrit la réaction de ceux qui s'opposent au Christ, comme ils ont commencé par s'opposer à Jean le Baptiste, nous dit ceci. Vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repenti plus tard pour croire à sa parole. À la limite, vous auriez pu ne pas croire au début, comme ce fils qui commence par répondre non avant de faire oui. Mais même plus tard, vous vous êtes endurci dans le refus. Et au moment où Jésus parle, il est encore temps, jusqu'au dernier souffle, de faire oui, plus que de répondre oui. Ce Père donc, infiniment patient, que nous sommes chacun, chacune de nous, appelés à servir. Ce qu'il faut comprendre, et c'est peut-être là que se fait la séparation entre les deux fils, que se joue aussi la séparation entre ceux qui ont accueilli la parole de Jean et qui accueillent aujourd'hui celle de Jésus, et ceux qui la refusent. C'est qu'au fond, être appelé à la vigne du Père, c'est ni plus ni moins, dans la mesure où on y répond, entrer ou non en relation avec lui. Car on ne va pas dans la vigne d'un étranger, on va bien dans la vigne du Père, celui qui appelle. Et c'est là le point central. C'est qu'en travaillant à la vigne du Père, on exprime sa relation avec lui. Et c'est comme ça, je pense, que nous pouvons comprendre cette parole peut-être un peu étonnante de prime abord que Jésus prononce tout à la fin de notre évangile. Nous ne l'aurions sans doute pas dit comme ça. Vous ne vous êtes pas repentis pour croire. Il y a un lien immédiat entre le fait de se repentir et le fait de croire, d'entrer dans la foi. Car en effet, se repentir exprime toujours, nécessairement, l'expression d'une relation. Ce qui est loin d'être le cas du simple remords. Le remords est une sorte de réaction instinctive que nous pouvons avoir lorsque nous commettons le mal, mais c'est encore une discussion de nous-mêmes avec nous-mêmes, souvent pleine de dépit contre soi-même. Ce qui fait la distinction avec le repentir, c'est que le repentir s'adresse à un autre, précisément à celui que l'on a blessé, que l'on a offensé par son péché. Et c'est souvent là que se joue précisément le cœur même de toute conversion. C'est au moment où nous comprenons à quel point nous n'avions pas compris combien nous sommes aimés, que saisis justement par ce repentir, nous exprimons dans le même moment la foi en celui que nous découvrons, tellement aimant. Oui, réellement se repentir pour croire. C'est une démarche à constamment cultiver en nous. C'est celle que les publicains et les prostituées ont su réaliser. L'évangile de Luc nous montre en effet, au début de la prédication de Jean-Baptiste, des publicains qui osent venir s'adresser à Jean pour lui demander « Et nous, que devons-nous faire ?» Plus tard, on verra un groupe de docteurs de la loi envoyés par les autorités de Jérusalem venir aussi se présenter devant Jean, mais non pas pour cette question « Que devons-nous faire ? » Comment pouvons-nous entrer dans ce baptême de conversion que tu prêches? C'est pas ça qui les intéresse. Que devons-nous dire à ceux qui nous ont envoyés? Quelle est ta doctrine? On en reste au plan des idées, mais on ne bouge pas d'un iota dans son cœur. On ne se sent pas concerné par cette conversion à laquelle Jean appelle pour préparer les cœurs au Christ. On ne se sent pas concerné par ce baptême proclamé, dit littéralement Luc, pour le pardon des péchés. Et donc, si on est muré dans sa suffisance, on ne peut croire. On ne peut comprendre qu'on a besoin de ce Sauveur et que hors de lui, il n'y a pas de salut. Nous pouvons peut-être nous désoler parfois d'être ce fils qui commence par répondre oui et qui fait non, ou bien qui commence par dire non, mais qui fait finalement oui. C'est là tout le mystère du respect que Dieu a pour notre liberté, mais un respect qui nous est offert pour grandir réellement, pour réaliser ce oui au cœur de notre vie. C'est ce Père des miséricordes que petite Thérèse, que nous fêtons aujourd'hui, sainte Thérèse de Lisieux, a tellement reconnu, proclamé comme docteur de la miséricorde.